Europe 1. George Sand est sans doute la plus grande auteure féminine du 19e siècle. Elle se distingue des rares femmes qui osent écrire à son époque et gagne le statut de star scandaleuse de la littérature. Femme émancipée, elle tient à vivre sa vie à l'égal des hommes. Elle gagne son propre argent et choisit elle-même ses amants parmi les autres célébrités de son temps. En abordant la quarantaine, George Sand s'éveille à la politique. Passionnée par la justice, fondamentalement républicaine, elle défend de façon romantique la cause d'un peuple qu'au fond, elle ne connaît pas vraiment. Voilà pourquoi la Deuxième République ne sera finalement que déception. Mais passion après passion, Sand a mené sa vie comme elle le voulait. Et c'est ce qui la rend si touchante aujourd'hui. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. George Sand, pour la liberté. Épisode 1, comme un garçon. Nous sommes à Paris au début des années 1830. George Sand, à même pas 30 ans, est la nouvelle coqueluche de la capitale. Son premier roman, Indiana, lui a donné une place de choix au sein de la jeune génération des auteurs de premier plan. Traiter le sujet du désir amoureux et de la passion au sein de la bourgeoisie, il fallait oser quand même. Je rappelle que Flaubert n'écrira Madame Bovary que 25 ans plus tard. En s'emparant de ce sujet si quotidien et intime, la jeune femme a créé quelque chose de tout à fait nouveau en littérature. Curieux de ce petit phénomène, Balzac invite George Sand à dîner. À cette époque, Balzac a environ 35 ans. La peau de chagrin a déjà eu un certain succès, mais il n'a pas encore écrit ses chefs-d'œuvre. Il est immédiatement subjugué par cette toute petite femme qui arrive dans son entresol modeste de la rue de Cassini. Elle a des cheveux noirs, le teint olivâtre, d'immenses yeux foncés à la fois doux et vifs. Elle est plus charmante qu'elle n'est belle. Mais surtout, elle est habillée en homme avec une redingote, un gilet brodé et un pantalon. Elle a toujours une cigarette entre les doigts qui lui donne une étrange contenance au milieu de son nuage de fumée bleutée. Dans son journal intime, Balzac écrit à son sujet « La femme est une étrange locomotive ». Les deux écrivains deviennent amis et dînent souvent ensemble. Il faut dire que si Balzac ne juge pas les excentricités de Sand, c'est parce qu'il a aussi les siennes. Un soir, il ne résiste pas à l'envie de montrer à George, avec la joie d'une petite fille, selon les mots mêmes de Sand, sa nouvelle robe de chambre. Après l'avoir passée, tenant un bougeoir à la main, il propose à George de la raccompagner chez elle. Mais il n'y pense pas, il va se faire assassiner dans cette tenue. Balzac rétorque qu'ainsi vêtu, on le prendra pour un fou ou un prince, et que personne n'osera l'attaquer. Voilà donc Sand et Balzac qui marchent ensemble dans les rues noires et désertes du Paris nocturne, l'une habillée en homme, l'autre en robe de chambre, une bougie à la main. Cette capacité à se moquer du regard des autres, à vivre au gré de ses lubies, c'est sans doute ça qui caractérise le mieux un véritable artiste. George Sand, de son propre aveu, est la fille d'un patricien et d'une bohémienne. Son père, Maurice Dupin de Franqueuil, est un officier napoléonien dans les troupes de Joachim Murat. Sa mère, Sophie Victoire de Laborde, est une cantinière de la troupe, ou plus vraisemblablement, une fille à soldat qui compte sur son joli minois pour trouver un mari riche. Maurice épouse Sophie un mois avant la naissance de leur fille Aurore en 1804. La mère de Maurice, Marie-Aurore de Saxe, est mise devant le fait accompli. Cette descendante du maréchal de Saxe, qui se dit cousine de tous les rois européens, est dévastée par cette mésalliance, mais elle fond dès qu'on lui met sa petite fille entre les bras. La petite a les mêmes yeux immenses que Maurice et Marie-Aurore. Voilà pourquoi cette dernière accepte d'accueillir la petite famille dans sa belle demeure de Nohant, dans le Berry, où elle s'est réfugiée pour fuir la Révolution française. Mais ce bonheur va être écourté par un drame. Un soir de l'été 1808, Maurice rentre d'un dîner près de Nohant. Son cheval, effrayé par on ne sait quoi, fait un bond et désarçonne son cavalier. La tête de Maurice heurte un tas de pierres. Il meurt sur le coup. Marie-Aurore est dévastée par le décès de son fils. Peu après, elle chasse sa belle-fille de chez elle en lui offrant une belle rente annuelle en échange de la garde d'Aurore. La petite fille a l'horrible sentiment d'avoir été vendue par sa mère. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Marie-Aurore élève sa petite fille comme elle a élevé son fils, avec beaucoup d'amour et toute la liberté qu'on offre d'ordinaire aux garçons. La petite Aurore passe des après-midi entiers à jouer, à courir dans les bois avec les garçons du village. Elle monte à cheval et sa grand-mère l'appelle parfois « mon fils ». Et en même temps, quand elle est au château, elle lit pour sa grand-mère, joue du piano et porte des jolies robes. À une époque où l'éducation des femmes est d'une rare indigence, la future Georges a droit au meilleur de l'instruction des garçons et des filles, des acquis qui vont structurer son existence. Marie-Aurore de Saxe tombe malade alors qu'Aurore a 17 ans. Avant de mourir, elle lui murmure « Tu perds ta meilleure amie », sous-entendu, celle qui lui permet d'être libre. Maintenant, il va falloir se plier aux attentes de la société. Alors Aurore se marie au baron Casimir du Devant. Elle mène une vie d'aristocrate champêtre auprès d'un mari, certes pas méchant, mais qui ne partage pas son goût pour l'art. Après avoir mis au monde deux enfants, Maurice, doté des yeux immenses des Saxes, et Solange, Aurore s'ennuie et se décide à prendre des amants. Ses relations avec son mari se dégradent, alors elle ose faire quelque chose d'absolument incroyable pour son époque. Au début des années 1830, la baronne du Devant s'enfuit à Paris avec son amant du moment, Jules Sandeau, un ravissant Apollon blond qui rêve d'être écrivain. Dans les années 1830, la presse est en plein boom. Tout aspirant écrivain fait ses premières armes dans les journaux. Évidemment, les plus sérieux ne comptent aucune femme parmi leurs collaborateurs et les autres les admettent, à condition qu'elles ne signent pas leurs articles ou qu'elles se limitent à apposer leurs initiales. Aurore commence à gagner un petit peu d'argent en écrivant pour le Figaro. Elle publie un premier roman à quatre mains avec Jules Sandeau sous le nom de Sande, puis elle se lance elle-même dans l'écriture de son premier opus, Indiana. C'est à cette époque qu'elle s'invente son nom de plume. Georges, parce que c'est un prénom berrichon et que c'est masculin. Aurore ne veut pas être une femme qui écrit. Elle veut être un écrivain, à l'égal des hommes. Et Sande, parce que le nom commençait à être connu dans le milieu de l'édition. Le succès est au rendez-vous. En plus, le nouvel écrivain à la mode a obtenu une autorisation de la préfecture pour se travestir. Le port du pantalon est alors interdit aux femmes, sauf autorisation spéciale, et le personnage qu'elle s'est forgé plaît autant que sa plume. Georges Sand est subversive, émancipée, indépendante, en totale contradiction avec le modèle féminin de son temps. Sans doute un peu jaloux, Baudelaire, qui est un bourgeois proto-punk, la traite de latrine et Jules Renard de vache à roman. Mais à part eux, elle a mis Paris à ses genoux tant elle est iconoclaste. Georges s'habille en homme, drague les hommes qui lui plaisent avec la même liberté qu'un homme et écrit comme un homme. Elle n'en est pas moins une femme. Elle est même la plus féminine des femmes selon son prochain amant. En 1833, à l'occasion d'une soirée organisée par la Revue des Deux Mondes, Georges Sand rencontre le petit génie de la littérature. Il a 22 ans, il est talentueux, grand, très beau, blond, aux yeux bleus. Il est atrocement cynique et n'éprouve de joie que lorsqu'il choque son monde et brise le cœur des femmes. Ce prince de la littérature, vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est Alfred de Musset. Entre ces deux nouvelles stars des lettres, c'est le coup de foudre et le début d'une passion incandescente. Après leur rencontre, Alfred écrit à Georges « Je vous aime comme un enfant ». Cette déclaration touche l'écrivain au cœur, elle qui aime avoir le dessus sur ses amants tout en les maternant. Alfred et Georges s'aiment sous les toits de Paris, dans le petit appartement du poète. Il la dessine constamment pour fixer son charme sur le papier comme s'il voulait arrêter le temps. En quête de lune de miel, Georges propose à Alfred de partir tous les deux en randonnée à Fontainebleau. L'écrivain adore marcher dans la nature et ça, ce n'est pas banal pour une femme de son temps. Musset, le citadin, doit être stressé par cette nature hostile parce qu'au troisième jour de ce voyage, un drame survient. Musset fait une crise psychotique. Il a des hallucinations terrifiantes. George Sand est épouvantée. Elle comprend que son bel amant est torturé, mais que faire à une époque où la psychiatrie est balbutiante ? Rien, et espérer que ça ne se reproduise plus. Pour conjurer ses démons, Musset accepte de partir avec Sand en Italie à la fin de l'année 1833. L'arrivée à Venise est un enchantement. Le couple descend à l'hôtel Danieli, près de la basilique San Marco. C'est un superbe palais vénitien où l'on est ébloui par les marbres et les dorures. Mais ce décor de théâtre romantique va devenir la scène d'une pièce tragique. D'abord, George tombe malade. Elle souffre d'un épisode de dysenterie. Musset n'a pas l'intention de lui tenir les cheveux pendant qu'elle vomit. Il s'enfuit dans les trattoria et profite des beautés locales. Lorsqu'il rentre à l'aube, il est accueilli par des reproches. Il rétorque par des insultes et jure à George qu'il ne l'a jamais aimé. Pour nos auditeurs qui croient au karma, c'est là que Musset paye ses mauvaises actions. Alors que Sand recouvre la santé, Musset tombe malade. Il souffre de sortes de fièvres avec des épisodes psychotiques. Sand fait venir un médecin à son chevet, le beau Pietro Pagello, et elle se console avec cet Italien délicat qui la regarde comme la 8e merveille du monde. N'oublions pas que Sand est alors une star en Europe. Résultat, une fois guéri, Musset fait une scène abominable à George. Le couple se quitte fâché et Musset rentre seul à Paris. George reste avec Pagello jusqu'à l'épuisement de ses réserves financières, puis rentre à Paris avec son Italien. Sauf que là, Pagello, au bord de la Seine, il ressemble à un poisson hors de l'eau. Cette toquade passée, George renvoie son Italien en Italie. Il est temps pour elle de vivre l'épilogue de sa liaison avec Musset, des semaines de douleurs terribles. Elle assiste impuissante à leur amour qui fait naufrage et à la descente aux enfers de Musset. Enfin, le couple rompt définitivement. Sand se coupe les cheveux en signe de deuil. À cette époque, c'est l'équivalent d'une mutilation. Musset, quant à lui, écrit son chef-d'œuvre inspiré par leur passion, La confession d'un enfant du siècle. Après une liaison aussi violente, George Sand va connaître la tendresse d'un amour délicat. Par son ami Franz Liszt, l'écrivain rencontre les nouveaux artistes à la mode. Elle adore la musique et regrette de ne pas être capable de composer elle-même. Et voilà qu'elle découvre, lors d'un récital, Frédéric Chopin, un artiste sensible et timide. Elle est immédiatement sous le charme, mais ce n'est pas réciproque. Après leur première rencontre, il écrit même à ses proches qu'il la trouve antipathique. Mais l'écrivain ne s'avoue pas vaincu. Elle veut Chopin, et elle l'aura. Alors pour l'amadouer, elle paraît dans ses récitals vêtue à la polonaise pour lui rappeler ses origines, et elle dépose sur son piano un petit message dans l'espoir d'atteindre son cœur. Pour découvrir ce que Sand a écrit à Chopin, je crains qu'il ne vous faille écouter le second épisode. À très vite.